commencer. L'émission a commencé.
Debout.
Énorme. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances?
Le football, il a changé.
Good morning tour. Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver. Après une longue pause, toute l'équipe est de retour pour vous présenter l'actu en ce vendredi matin. Nous sommes le 2 juin, le soleil se lève dans le ciel dégagé de Tours. Et à mes côtés, Laura. Bonjour Laura.
Salut Maëlle et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, programme tout en douceur pour reprendre les bonnes habitudes. Arnaud nous présentera le flash, Maëlle, tu nous feras une petite revue de presse. Jeanne fera un point sur la récente élection en Turquie. Zachary, une chronique pas piquer des hannetons sur le mois des fiertés. Et Kelvin nous présentera le dernier dispositif de Météo France, la météo des forêts.
Quant à toi Laura, tu as été au parc Mirabeau hier soir au centre de Tours pour l'apéro béton, un concert organisé par les copains de Radio Béton. En voilà de l'actu chaude, ton reportage est à retrouver juste après la première musique, Failed at Mass de Pachico. Il est 7h17 sur Radio Campus. Et il est 7h20 sur Radio Campus Tours. Quant à toi Laura, hier soir tu étais au parc Mirabeau pour l'apéro béton spécial au quart de Tours, le festival qui a lieu la semaine prochaine. Au programme hier soir, des showcases d'artistes et des jeux de radio en plein air. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur ce sujet ?
Alors c'est le genre d'ambiance qu'ont pu entendre les habitants du quartier de Mirabeau hier soir entre 18 et 22 heures. C'était l'apéro béton, un événement de la radio du même nom, annonciateur du début de la saison des festivals en Touraine, au premier rang duquel, au quart de Tours, qui est organisé par Radio Béton. Cette année aura lieu la 35e édition du festival. Mélissa Pourpart, coordinatrice d'antenne de Radio Béton, revient sur sa création.
C'est la 35e édition et ça a commencé parce que Radio Béton était une radio pirate. En fait, on n'avait pas le droit d'émettre, on a été interdit d'antenne. Et pour continuer à diffuser les artistes voilà, qu'on avait envie de défendre de la scène émergente et de la scène alternative, ben, puisqu'on n'avait plus le droit de le faire en radio, on a dû trouver une forme différente et du coup on l'a fait en live. Et c'est au quart de tour qui est né en fait, ça a été les prémices, parce que ça s'est pas appelé au quart de tour tout de suite, mais en fait c'est arrivé comme ça. Et quand on a ensuite eu une fréquence régulière, on a quand même continué à faire le festival, et c'est depuis 35 éditions maintenant au début juin. Vraiment, c'est le moment qui lance un petit peu les festivités de l'été, parce qu'on est un peu le premier festival de la région à commencer. Et notre programmation sur Au quart de tour reflète, mais très pour très, notre programmation à la radio, parce que c'est des artistes qu'on défend à l'année, c'est des découvertes qu'on a fait dans l'année qui vont être jouées en live. Et c'est aussi pour nous l'occasion, voilà, de défendre cette scène-là en concert.
Alors, parenthèse, les radios pirates, en fait, c'est des antennes qui n'avaient pas le droit d'émettre avant la fin des années 80 et l'ouverture de la radio publique à la concurrence en France. En fait, Apéro Béton, c'est donc un avant-goût d'Au quart de tour, et ça fait partie des différents événements qui ont lieu autour du festival pour le faire connaître, à l'image des apérocs qui seront organisés tout au long des festivités. Hier soir, au Parc Mirabeau, trois artistes qui vont se produire au festival ont chacun fait un showcase, une sorte de mini-concert d'une demi-heure chacun. Inej, qui se produira le jeudi 8 juin sur la place du Grand Marché, TFT le 9 juin au Jericho, et Chofoukan à la Guinguette le 11 juin pour l'after d'Au quart de tour.
Et il y avait des choses entre chaque spectacle.
Alors Radio Béton organisait des jeux pour faire gagner des places du festival et autres goodies. Ajoutez à cela un stand de boissons et du soleil et vous avez la recette parfaite d'une ambiance de festival. Il n'y a qu'à entendre les impressions d'Inès, la leader d'Inej, le groupe qui a ouvert la soirée hier.
C'est l'un des festoches le plus cool de la région. Et c'est trop bien, enfin, là les gens sont tous posés, il fait beau, c'est parfait pour jouer.
Au quart de tour, c'est aussi et surtout un festival ancré dans la culture tourangelle.
En effet, Maëlle, c'est un festival très attendu qui a son petit succès. En 2022 par exemple, hein, la dernière soirée était complète avec 5000 festivaliers présents. Voilà comment l'explique Mélissa Poupard quand on lui demande pourquoi, selon elle, le festival attire toujours autant.
Alors cette question-là, il faudrait la poser à tous les Tourangeaux et toutes les Tourangelles qui viennent tous les ans. En fait, on s'est rendu compte de ça, notamment en 2016, lorsque notre festival a été annulé au bout d'un jour suite aux inondations, tout le monde s'en souvient. Et en fait, on a eu un élan, mais de vagues de bienveillance, d'amour pour le festival, parce qu'en fait, c'est vraiment un festival très local, ultra local. On est en cœur de ville avec des gens qui connaissent la radio, mais pas forcément la programmation. Toujours les gens disent, moi je m'en fous de ce qu'il y a au quart de tour au niveau de la prog, parce qu'on fait quand même beaucoup de découvertes, mais en fait parce que je sais que je vais avoir des bons concerts, je sais que je vais faire de bonnes découvertes. C'est aussi le moment où les Tourangeaux qui ne sont plus ici reviennent, parce que c'est la saison un peu des vacances, qui retrouvent des potes qu'ils n'ont pas vus depuis un an. C'est vraiment la grosse réunion, mais de famille tourangelle, où tout le monde se retrouve et tout le monde passe une bonne soirée sur 5 jours. C'est vraiment une grosse réunion où il fait toujours beau, où il y a la musique qui coule à flot et que des découvertes musicales géniales.
Donc pour rappel, au quart de tour, ça se passe du 6 au 10 juin, un peu partout dans la ville. Le programme et la billetterie sont à retrouver sur le site aucart-tour.com.
Et merci Laura pour ce reportage. Au quart de tour a donc lieu la semaine prochaine. Après ce reportage musical, on reste dans le thème. On écoute California Dreaming des Mamas and the Papas.
est 7h27 sur Radio Campus et au micro de Good Morning Tour. Arnaud vient de nous rejoindre. C'est l'heure de faire un point sur l'actualité avec le Flash.
Bonjour Laura, bonjour à tous. Dans l'actu ce vendredi, le Rassemblement National pris à son propre piège. Un rapport parlementaire de la commission d'enquête sur les ingérences étrangères publié hier pointe du doigt le groupe d'extrême droite pour ses liens avec la Russie. Ironie du sort, cette commission a été créée par le RN lui-même pour répondre aux accusations d'influence russe lancées par le camp présidentiel. Marine Le Pen dénonce un rapport malhonnête et tout à fait politisé, ainsi qu'un procès politique. Le rapport souligne des contacts fréquents entre les proches de Poutine et des responsables du RN comme Thierry Mariani ou Aymeric Chopra. Retraite, la proposition de loi du groupe parlementaire Liot visant à abroger le recul de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans a été neutralisée par les députés macronistes. Après plus de 5 heures de discussion houleuse mercredi 31 mai, les élus du camp présidentiel aidés par les Républicains ont rejeté le texte de 4 voix en commission des affaires sociales. Désormais, la décision d'un débat et d'un vote sur la mesure d'âge revient à la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Elle pourrait juger irrecevable l'amendement du groupe Liot au titre de l'article 40 de la Constitution qui interdit aux parlementaires de créer une charge financière non compensée pour le budget de l'État. Sénégal, il ne sera pas président. L'opposant Ousmane Sonko a été condamné ce jeudi à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. S'il a été acquitté des faits présumés de viol, la décision du tribunal de Dakar hypothèque toutefois sa candidature à la présidentielle de 2024. La plaignante Hadji Sarr, ancienne employée du salon de beauté où Sonko allait se faire masser, l'a accusée de multiples abus sexuels entre 2020 et 2021. Elle avait 21 ans au moment des faits. Hier, des heurts ont éclaté dans la capitale du pays. Le Kosovo est le cœur de la Serbie. Arrêtez la violence. Vous ne l'avez pas raté, ce message politique écrit par le Serbe Novak Djokovic sur une caméra de Roland-Garros. Lundi 29 mai, dans le nord du Kosovo, des affrontements ont éclaté entre manifestants serbes et forces de l'ordre et membres de l'OTAN. Les premiers réclament le départ des maires albanais dans des municipalités où les Serbes sont majoritaires. La plupart d'entre eux ne reconnaissent pas l'indépendance du Kosovo, proclamée en 2008 après la terrible guerre des Balkans. Oui, oui si, en attente, non. Les résultats de Parcoursup sont tombés hier. Les 600 000 lycéens et 150 000 étudiants en réorientation ont enfin des réponses aux vœux qu'ils ont formulés pour étudier dans l'enseignement supérieur. Ils auront jusqu'au 7 juillet pour faire un choix, un temps volontairement réduit pour rapidement libérer des places. Comme les années précédentes, ce sont les licences qui sont les plus demandées. Pour finir, un point culture à Tours, l'artiste tourangelle Olivia Rold est en exposition au Quartier des Arts depuis hier et ce jusqu'au 14 juin. On y retrouve plusieurs toiles travaillées à la lumière, comme à son habitude, mais avec des nuances un peu plus nocturnes cette fois-ci. Peinture récente, c'est le nom de l'exposition, est à retrouver au 27 rue Étienne Marcel, tous les jours de 15h à 19h.
Et c'était les actus racontées par Arnaud, merci à toi. Good Morning Tour, ça continue, on écoute Lonely d'Imagine Dragons.
Mixing it up, checking it twice, trying to breathe, starting to seize, lights, camera, action and scene, story of my life. Oh love, have mercy on me, and keep me company. I said, oh love, have mercy on me, and keep me company. I said, sometimes I smile to keep things easy. I hide in corners, hope that no one sees me. So I'm playing the role, riding the bull, stuck in the hole, taking a bow, looking so proud. Look at me now, talking about pills in my mouth, under the tongue, isn't it fun? Trying to breathe, starting to seize, lights, camera, action and scene, story of my life. Oh, oh, oh.
C'était Lonely de Imagine Dragons. Il est 7h32 sur Radio Campus. On accueille Jeanne tout de suite qui nous parle des dernières élections en Turquie. Salut Jeanne.
Salut Maëlle, salut Laura. Et oui, après deux décennies au pouvoir, Recep Tayyip Erdogan a été réélu président de la Turquie dimanche 28 mai, donc dimanche dernier. Le chef de l'État sortant, âgé de 69 ans, a remporté le second tour du scrutin avec près de 52,16% des suffrages, devançant largement son adversaire de centre-gauche, Kemal Kılıçdaroğlu, environ 47%. Un résultat qui était scruté par les capitales étrangères, tant la Turquie joue un rôle crucial dans la géopolitique régionale. Faisons un point si vous le voulez bien. Donc en effet, depuis quelques années, le pays est un nouvel acteur des relations internationales. Le nationaliste turc devrait continuer à s'inscrire donc dans sa stratégie multilatérale, une espèce de stratégie à multiface, vous allez le voir. Chapeauté par la politique du parti au pouvoir, l'AKP, Ankara a su renforcer son influence au Proche-Orient. Les spécialistes l'attribuent principalement à deux événements, la diminution de la présence américaine et également l'absence de politique européenne dans cette zone. Erdogan a développé des contacts avec la Chine ou entamé une réconciliation avec certains pays du Proche-Orient. Point sensible, le rapprochement avec la Syrie. Si Recep Tayyip Erdogan a tenté d'initier une réconciliation avec Bachar el-Assad, ce dernier refuse toujours toute discussion tant que l'armée turque occupe le Kurdistan syrien.
On rappelle que la Turquie fait partie de l'OTAN. Est-ce qu'il y a de la tension entre ses membres et la Turquie ?
Oui, les Occidentaux ont certaines dissensions avec leurs camarades de l'OTAN. Depuis l'achat de missiles russes S-400 par la Turquie en 2019, certains redoutent qu'Ankara soit une sorte de cheval de Troie de Moscou au sein de l'Alliance Atlantique. Pourtant, la place de la Turquie dans l'OTAN est tout de même loin d'être mise en cause. D'ailleurs, en son sein, il reste la question sensible de l'adhésion de la Suède à l'OTAN, à laquelle Ankara a jusqu'ici opposé son veto. La Turquie, en fait, accuse ainsi la Suède d'héberger des militants et sympathisants qu'elle considère comme terroristes, en particulier ceux du Parti des travailleurs du Kurdistan, donc le PKK.
Et qu'est-ce qu'il en est, Jeanne, des relations avec l'Union européenne ?
Justement, au sein de l'UE, selon les experts, il ne faut pas s'attendre non plus à un réchauffement des relations entre la Turquie durant les 5 années à venir. Le pays est actuellement et officiellement toujours dans un processus d'adhésion à l'Union européenne, mais il est de facto gelé. En cause, notamment le virage autoritaire pris par Recep Tayyip Erdogan depuis les années 2010, marqué par la répression des oppositions et les attaques contre les libertés de la presse ou les droits de la femme. Aucune amélioration n'est donc attendue pour ce nouveau mandat. Faut dire que les relations entre l'UE et la Turquie reviennent souvent à un accord sur l'accueil des réfugiés syriens. Depuis 2016, Bruxelles a versé 6 milliards d'euros à la Turquie, qui a retenu 4 millions de migrants sur son territoire en contrepartie. Donc une relation de chantage finalement.
Il y a aussi un autre nœud entre les Européens et les Turcs ?
Oui, l'un des principaux points de tension avec Bruxelles, c'est Chypre, donc cette petite île dans le sud de la Turquie. Ankara est la seule capitale au monde à reconnaître la République turque du nord de l'île, État membre de l'UE, divisé en deux depuis 1974.
Et la Russie dans tout ça ?
Oui, parlons du jeu de la Turquie quand même avec la bête noire de l'Europe en ce moment, la Russie. L'invasion de l'Ukraine a été en fait une aubaine pour le président turc et l'AKP, son parti. Erdogan joue un double jeu car il est à la fois membre de l'OTAN et proche de Moscou. Jusqu'ici, le dirigeant turc a avancé sur une ligne de crête résumée sous le concept de neutralité pro-ukrainienne. Il soutient l'effort de guerre de Kiev et lui fournit des drones de combat, mais d'un autre côté, Ankara ne s'est pas associé aux sanctions occidentales et maintient ses échanges économique avec la Russie, dont elle dépend fortement en matière d'hydrocarbures notamment. Autre facteur, les experts sont unanimes, la Turquie a pu aussi réaffirmer son rôle de facilitateur. On peut citer notamment l'exemple de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Mais le rôle de médiateur que veut se donner Ankara ne permettra pas non plus d'avancer concrètement vers une sortie de la guerre.
Merci beaucoup Jeanne pour ce point, on y voit beaucoup plus clair sur les enjeux qui ont été cette élection turque. Il est 7h37 sur Good Morning Tour, on écoute tout de suite Johnny de Sophie Tucker.
Acontece que vamos, eu disse perdoamos. Isso acontece, claro, acontece a qualquer rumo. Eu disse qualquer rumo é to anyone. É claro, tudo perdoado. Johnny, do you, do you, do you, do you, do you? Johnny, can you hear me? Johnny.
Sur Radio Campus, et c'est le tour de Maëlle. Tu nous fais une petite revue de presse.
Et oui, Laura, une revue de presse, puisque pour tout avouer, ces derniers temps, suivre l'actualité n'était pas aisé pour nous étudiants de l'EPJT. D'abord un stage, ensuite un mémoire à rédiger. Cette semaine, on peut souffler un petit peu en travaillant dans des sessions techniques. Il faut donc en profiter pour se raccrocher à l'actualité. Alors pour cette matinale, je me suis mis à la recherche d'une actu qui valait le coup d'être racontée. Mais en fait, je me suis dit pourquoi pas faire un petit florilège de ce que j'ai vu lors de ces recherches.
Et bien, c'est parti, Maëlle, pour cette revue de presse.
Comment expliquer la disparition des plongeoires dans les piscines municipales en France? C'est la question très sérieuse que se pose Benoît Hachette, sociologue, dans un article sur AOC.fr. Où sont passés les plongeoires à 7,5 mètres ou à 10 mètres de hauteur? Où sont passés les files d'attente dans les escaliers menant aux plateformes, souvent empruntées par les plus jeunes, voulant expérimenter la sensation d'un saut dans le vide? Un petit état des lieux. En France, il y a 4000 piscines municipales, 140 bassins disposent de plongeoires, plus ou moins normées, dont 55 sont utilisables en été comme en hiver. L'auteur propose même une météo des piscines avec plongeoires. Dans le couloir qui va de Cherbourg à Montpellier, en passant par Tours et Clermont-Ferrand, il n'existe plus de piscine accessible au grand public avec un plongeoir. Pour l'auteur, il s'agit même d'une vraie diagonale du vide. Alors comment expliquer cette disparition progressive du plongeoir? Dans les années 70, les bassins se sont multipliés en jeu de santé publique. Ils permettent d'apprendre à nager, de faire du sport et donc de plonger. Mais dans les années 90, une bascule s'opère. Dans la bataille de la verticalité, le toboggan l'a remporté sur le plongeoir. Un lobbying des constructeurs de pentaglisse est très sérieux, a poussé les mairies à remplacer les plongeoirs par des toboggans présentés comme moins dangereux et nécessitant moins de surveillance. À cela s'ajoute la disparition de l'apprentissage du plongeon dans les formations des maîtres nageurs et des professeurs de PS. Et c'est ainsi que se perd une infrastructure, un loisir dans les piscines françaises et que se perd aussi une discipline sportive qui est pourtant au programme des prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. Justement, durant cet événement, quelle place sera accordée aux sportifs atteints de handicap mental? C'est La Croix qui se pose la question dans son édition de hier, jeudi 1er juin. Un événement se tient à Vichy la semaine prochaine. Il s'agit des Global Games, le plus grand événement mondial pour les sportifs déficients intellectuels. Ici, les épreuves sont qualificatives pour les Jeux paralympiques de l'année prochaine. Trois disciplines sont ouvertes aux déficients intellectuels, le tennis de table, la natation et l'athlétisme. Pour les autres disciplines, le Global Games est donc l'événement le plus important important au niveau international. 50 nationalités y sont représentées. Mais pas question pour les organisateurs de laisser croire que cet événement est l'équivalent de Jeux olympiques adaptés. Au contraire, ils espèrent que les Jeux paralympiques deviennent plus inclusifs et ouvrent d'autres disciplines aux personnes déficientes intellectuelles. Puisqu'il faut savoir qu'entre 2000 et 2012, les personnes en situation de handicap mental ont été écartées dans la compétition olympique. En cause, lors des Jeux paralympiques de Sydney de 2000, l'équipe de basket espagnole a triché. 10 des 12 joueurs étaient en réalité valides. La volonté de voir le sport paralympique semble forte, révèle Lacroix. Le seul bémol, c'est la classification des handicaps. Les épreuves paralympiques sont réparties en 3 catégories et seulement les déficients intellectuels seuls peuvent concourir, écartant les personnes atteintes de trisomie 21 ou de troubles autistiques. Faire évoluer cette classification ne dépend pas de la France, répond Geneviève Dariusque, ministre déléguée en charge du handicap. En attendant, les Global Games de la semaine prochaine seront le moyen de voir sous un autre regard le handicap. Et puis enfin, par curiosité, je suis allé lire La Provence, le journal quotidien du sud de la France. Curiosité, oui, puisque en tant que bon étudiant en journalisme, j'ai suivi les récentes évolutions du journal. Son rachat par l'armateur CMA-CGM qui investit dans les médias, Brut et M6. La nouvelle direction de l'info, Laurent Guimier, débauché à France Télévisions. Et depuis cette semaine, une nouvelle maquette, un titre bleu, aéré, une grande photo de couverture entourée d'une dizaine d'autres titres. Bref, un véritable coup de neuf sur l'info. Par contre, un sacré coup de vieux lorsqu'on lit le dossier d'ouverture du journal d'hier, dont voici le titre, accrochez-vous. Kouakoubé, cringe, coup de jeune sur les mots. Et là, je me suis dit, enfin un article pour m'éclairer sur ces mots que j'entends à droite à gauche, mais dont je suis incapable de déterminer l'origine. Et La Provence propose un reportage. Dans le collège Sainte-Eutrope à Aix, 588 élèves, dont un tiers est issu des quartiers prioritaires de la ville, un tiers est issu des classes moyennes et le dernier tiers des classes supérieures. Bref, un melting pot social et lexical. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que nous, adultes, à notre âge, on peut se considérer adultes, nous sommes complètement cringe de ne pas savoir bien utiliser les termes Kouakoubé, Apayinié ou autres Kikiriki, un lexique des plus mystérieux qui déclencherait presque le seum à Stendhal, Flaubert ou Hugo. La formule ne provient pas de moi, mais de Bettina Métrotte, qui a donc interrogé les élèves de ce collège. Alors, que veut dire Kouakoubé, leur demande-t-elle ? En réalité, nous ne connaissons pas vraiment la signification, lui répond Malou en cinquième. On apprend aussi que le verlan est toujours utilisé dans les cours de récréation. Et là, ça va, Laurent, on n'est pas trop déboussolé, je te rassure. Il est intéressant aussi de voir que l'écrit persiste un petit peu avec les messages sur les réseaux sociaux. Par contre, on préfère envoyer un deuxième message plutôt que de mettre une virgule. On ne mettra pas de point à la fin d'une phrase perçue comme trop radicale. Et alors, l'oral prend le dessus. On fait plein de vocaux. C'est vrai que l'on perd un peu cette habitude d'écrire, confie Nora en quatrième. La directrice va dans le même sens. L'oral est de plus en plus travaillé dans les classes. Nous abordons aussi le consentement, l'empathie, se mettre à la place des autres, explique Armel Mahimir, la principale. Ce qu'il faut retenir, explique l'article, c'est que les jeunes restent lucides, savent s'ajuster, respecter l'autre et le monde des adultes. En voilà un article intéressant sur la jeunesse. Et là, on se sent encore plus vieux, mais après tout, à Good Morning Tour, on reste chill.
Merci Maëlle pour cette chronique. Pour rester dans l'ambiance, je propose qu'on écoute un genre musical qui porte bien son nom, c'est de l'électro-chill. C'est Magic de Polo & Pan sur Radio Campus. L'édite seulement, parce que sinon c'est trop long.
Oh,
Il est 7h49 sur Radio Campus. Bonjour Kelvin.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, tu veux nous parler d'une toute nouvelle carte météo mise en place en France. Mais avant, partons de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada. Le pays est en ce moment touché par une vague de chaleur extrême, faisant craindre un regain des feux de forêt qui ravagent le pays.
Oui Maël, plus de 2,7 millions d'hectares ont brûlé au Canada rien qu'en 2023, soit 8 fois plus que la moyenne des 30 dernières années, ont annoncé hier les autorités du pays, très inquiètes. À l'heure où l'on se parle, plus de 210 feux sont actifs dans le pays, dont 82 hors de contrôle. Les images sont spectaculaires et l'arrivée d'une vague de chaleur extrême et de vents violents dans l'Est pourrait entraîner un comportement extrême des incendies selon les pompiers. Le Canada, qui se réchauffe plus vite que le reste de la planète, est confronté ces dernières années à des événements météorologiques extrêmes dont l'intensité et la fréquence sont accrues par le réchauffement climatique. En France, la saison des incendies n'a pas encore commencé. Mais une nouvelle carte fait son apparition ce vendredi pour prévenir et informer le grand public sur les risques d'incendie. Après la météo des plages, la météo marine ou plus récemment le journal Météo Climat mis en place par France Télévisions depuis mars dernier, avec pour objectif de faire un lien entre la météo et le changement climatique, le gouvernement lance avec Météo France ce vendredi une nouvelle météo, la météo des forêts. Si je vous parlais du Canada il y a quelques secondes, c'est parce que le pays a déjà mis en place ce type d'outil, tout comme les États-Unis, l'Espagne ou encore la Grèce. Après un été 2022 dévastateur, pour rappel, l'Europe a été frappée par des incendies records. En France, nous avons subi des méga-feux, en Gironde notamment. L'année dernière, 72 000 hectares, dont 60 000 de forêts, sont partis en fumée. C'est énorme. Pour vous donner une ordre d'idée, c'est 6 fois plus que la moyenne des dernières années. Et les images de ces feux ont accéléré en quelque sorte la prise de conscience collective des enjeux liés au réchauffement climatique. Et puis ce qui est déjà inquiétant pour cette année, en 2023, c'est que d'après l'Elysée, au 21 mai, le nombre d'hectares brûlés était déjà de 21 000 contre 15 000 l'année dernière à la même époque.
Et Kelvin, quel va être le rôle de cette carte? Comment cela va fonctionner?
Eh bien, cette météo veut alerter les Français sur le risque de départ d'incendie. Pour ce qui est du fonctionnement, c'est Météo France qui va établir tous les jours cette carte. Pour cela, elle se basera sur des observations et des prévisions comme la température, la pluie, la force du vent, l'humidité de l'air et l'état de sécheresse de la végétation. Une fois que tous ces paramètres sont pris en compte, une carte est faite. Elle sera publiée tous les jours à 17h à partir d'aujourd'hui et au moins jusqu'à fin septembre, en clair pendant la période estivale. Elle sera disponible sur le site et l'application mobile de Météo France. L'objectif de cette météo des forêts est qu'elle entre dans le quotidien des Français, a expliqué en avril le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu.
Et hier, Kelvin, TF1 a diffusé en avant-première la toute première carte. Qu'est-ce qu'on a pu y voir?
Eh bien, chaque département se retrouve avec une couleur en fonction du degré de risque allant du vert, donc faible, au rouge, très élevé, en passant par le jaune et le orange. Aujourd'hui, par exemple, le risque d'incendie est faible sur la quasi-totalité du territoire. Seuls quelques départements essentiellement regroupés au sud-ouest de Paris, dont l'Indre-et-Loire, sont placés en vigilance modérée. Cet outil est un moyen supplémentaire pour alerter et sensibiliser le grand public, je vous le disais. D'autant que lorsque l'on sait que 90% des incendies sont d'origine humaine, et Christophe Béchu rappelle que plus de la moitié des incendies proviennent de gestes bêtes, comme des mégots, des barbecues ou de la meuleuse par exemple. Plus il fait chaud et sec, plus la végétation peut prendre feu et plus l'incendie peut se propager. Avec cette carte, il va donc être possible d'avoir une idée des régions les plus à risque et donc, par exemple, d'éviter de faire une balade en forêt lorsqu'une alerte a été mise en place. Mais cette météo est là pour montrer le degré de risque, mais pas pour indiquer si les massifs sont ouverts ou fermés. Pour cela, il faut se rapprocher des préfectures. Et puis, la carte ne précisera pas les incendies en cours.
Cette météo des forêts s'accompagne d'autres mesures.
Oui, il est désormais interdit de fumer en forêt à 200 mètres des massifs. Pendant la période à risque, cette mesure fera partie du code forestier. Les périodes seront définies par les préfets. Pour l'heure, il était déjà interdit d'allumer du feu dans les bois. Les amendes pour les jets de mégots ont été renforcées et l'obligation du débroussaillage autour des habitations vont aussi être renforcées. Bref, les mesures se sont multipliées ces derniers temps pour ne pas revivre les méga-feux que l'on a connus l'été passé.
Et on apprend que Emmanuel Macron va se rendre aujourd'hui auprès de la sécurité civile dans le Gard pour, je cite, préparer l'été avec des acteurs chargés de la lutte contre les incendies. Il présentera notamment cette météo des forêts. Merci Kelvin pour cette chronique. Good Morning Tour, ça continue, il est 7h53. On écoute tout de suite Dancing in the Moonlight de Top Loader.
Yeah.
Dancing in the Moonlight de Top Loader. Il est 7h57 et on en accueille un qui danse aussi et pas qu'à la lueur de la lune, tout le temps en fait. Salut Zachary.
Salut Laura, salut Maël.
Depuis la dernière émission mi-mars, on a quasiment changé de saison. Après des partiels et rendu de mémoire qui nous aura tous marqués, nous voilà donc rendus au mois de juin. Et c'est quoi le mois de juin ?
C'est le mois des fiertés.
Des fiertés.
Ouais, j'ai fait une bonne relance. Alors, toutes les marques se mettent aux couleurs arc-en-ciel, bon d'accord, mais c'est surtout une célébration des multiples communautés reliées par le fait d'être une minorité sexuelle, lesbienne, gay, bi, trans, intersexe, queer, etc. Mais savez-vous d'où vient cette célébration d'un mois entier ?
En petit récap, hein, c'est pas de refus.
C'est ça. Alors, il faut remonter, il y a une bonne cinquantaine d'années. 1969, c'est pas que l'année de Neil Armstrong sur la Lune et du festival de Woodstock, c'est aussi celle de l'apparition véritablement du mouvement LGBT aux États-Unis. Alors, New York est une ville multiculturelle par excellence qui accueille au sud-ouest de Manhattan le quartier de Greenwich Village. Celui-ci concentre depuis les années 20 des bars et lieux d'accueil des minorités sexuelles, notamment homosexuelles. Bon, problème, ces établissements sont illégaux et donc sont tenus par la mafia, ce qui ouvre sur des descentes de police régulières. Le 28 juin 1969, une énième descente enclenche un truc pas prévu. De nombreux habitants du quartier se regroupent et transforment leur ras-le-bol en véritable émeute contre la police et les violences policières. Et bien, en plein contexte de lutte pour les droits civiques des Afro-Américains, cet imprévu va véritablement fonder le mouvement LGBT que l'on connaît tous, qui dès lors commence à s'organiser avec de nombreux activistes qui vont demander, par exemple, qui vont principalement demander à pouvoir vivre librement avec leur sexualité. Un an après, le 28 juin 1970, les premières Gay Pride foulent le pavé à New York, Chicago, San Francisco et Los Angeles.
Gay Pride, Gay Liberation, Traduisons, soyons fiers d'en être, libérons-nous. Soyons fiers d'en être homosexuels. Ces hommes, ces femmes qui manifestent devant des passants un peu interloqués sous la protection de la police avec un drapeau américain se proclament eux-mêmes pédérastes et lesbiennes. À leur manière, les homosexuels américains réclament ce que réclament beaucoup de minorités américaines, être intégrés tout en affichant sa différence.
Voilà, merci à Lina pour ses archives d'un autre temps. C'est pour ça que c'est généralement le mois des marches des fiertés en juin et que les marches des fiertés existent dans les pays occidentaux. En France, le mouvement LGBT au sens politique s'est véritablement constitué après tous ces événements américains dans les années 70. Ce n'est qu'en 82, hein, pour rappel, que le fichage des homosexuels s'arrête et que l'on vote pour la dépénalisation de l'homosexualité. Toutefois, les années 80 vont être marquées aussi par l'épidémie de sida, qui marquera durablement et durement la communauté. Ensuite viennent, on connaît tous, le PACS en 99 et puis le mariage pour tous en 2013.
Et est-ce qu'il y a toujours des passants interloqués aujourd'hui, comme dans l'archive sonore que l'on vient d'entendre ?
Alors, sans doute moins, mais quand même, à l'heure actuelle, force est de constater que les minorités sexuelles ne sont pas toujours accepté par l'ensemble de la société. Preuve en est mercredi 31 mai, une tribune de plusieurs associations LGBT et de lutte pour les droits humains se sont associées dans le magazine Têtu pour alerter sur une multiplication particulièrement inquiétante des actes de vandalisme, de dégradation et de discours et de comportements haineux à l'encontre de plusieurs centres LGBT. En cause, le dernier exemple en date qui s'avère être à une poignée de kilomètres de nos studios. Lundi 22 mai, le centre LGBTI de Tours a été victime d'un attentat. Un jeune de 17 ans, a priori catholique intégriste, a lancé une bouteille explosive contenant acide chlorhydrique et boulettes d'aluminium dans le local. La raison, une, je cite, « exaspération de la théorie du genre ». La plus grande visibilisation depuis une vingtaine d'années des combats trans et du mouvement LGBT de manière générale entraîne une certaine réaction dans l'espace public. Des personnes sont inquiètes de voir les repères traditionnels des genres voler en éclats à la vue des désormais multiples identités sexuelles. Mais bon, pour ces dernières, tout simplement, cette réaction montre un refus de leur droit à vivre, carrément, et à s'intégrer dans la société. Et ça peut aller parfois très loin. Sans faire de mort, l'affaire du centre de Tours fait néanmoins beaucoup de bruit. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte le jour même, et d'après le député écolo du coin Charles Fournier, cela fait la sixième attaque en seulement quelques mois qui vise ce centre, connu depuis 2005 pour ses démarches informatives et ses interventions de sensibilisation au milieu scolaire reconnues par l'Éducation nationale. Vendredi dernier, environ 250 personnes se sont réunies porte de Loire pour soutenir et écouter le discours de l'administrateur du centre, H. Claveau. Avec une agression physique tous les deux jours en 2022 selon SOS Homophobie, un chiffre en hausse de quasiment 30%, les LGBT en général ne peuvent toujours pas vivre librement en France, toute proportion gardée. Voilà donc pourquoi ce mois de juin 2023, comme tous les ans, est le mois des fiertés. Qu'importe la récupération par les marques et les entreprises culturelles, celui-ci demeure un combat de tous les jours porté par des mouvements et des associations qui sont encore aujourd'hui visés pour leur combat, le droit des êtres humains à vivre en société. Les permanences d'accueil et d'écoute, ça se passe au 11 bis rue des Tanneurs, en face du resto universitaire de la fac de Lettres et Langues, les mercredis et samedis après-midi. Et la marche des fiertés Tourangelle aura lieu le 17 juin, au départ du château de Tours.
Rendez-vous est pris, merci Zachary pour cette chronique. On continue, Good Morning Tour, il est 8h02, on écoute Frog on the Floor de
100 Gecks.
100 Gecks.
Frog on the floor, where'd he come from? Nobody knows where he'll go.
He's been chilling in the basement for a minute. I just think it's time he moved into the kitchen. Give him some space and let him do his thing. Make him feel safe and listen to him sing. Frog on the floor, where'd he come from? Know what people think about
frog on the floor, where'd he come from? No.
about the bill. He's just fucking around. Will you buy my friend a beer if you see him jumping around? Cause he's got flies in his mouth and he needs to wash them down.
C'est bon là.
On est des mutes.
On est des mutes. On est des mutes.
Petite émission du coup.
Petit problème technique de fin d'émission. Ça faisait longtemps. C'est pour ça qu'il faut dépoussiérer un peu tout le matériel. Cette première émission donc de l'été est finie. On espère que l'on vous a apporté un petit avant-goût de vacances. On remercie donc chaleureusement les chroniqueurs et chroniqueuses de cette émission, Zachary, Jeanne, Kelvin. C'était Arnaud au flash et bien sûr merci à Maël, le co-présentateur, le John de cette émission.
Et merci Laura et merci à vous chers auditeurs et auditrices. On se retrouve peut-être avant la rentrée prochaine, on espère, parce que bah après tout le vendredi matin on aime bien vous causer dans le micro. On vous souhaite un bon mois de juin, plein de festivals et de fierté. À très bientôt, tchuss.